16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Autour de trois personnages et autour de Mathieu Noël aussi. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais ce n'est pas toujours un plaisir sensuel. Or, aujourd'hui, ça l'est. Puisque nous partons à la rencontre des heureuses entremetteuses de l'histoire. Donc une que vous avez bien connue Stéphane, qui vous adorait, la célèbre Madame Claude, qui était toujours émue de vous revoir quand, entre deux secrets d'histoire, vous vous octroyez une légitime escapade gourmande.
Oh, je parie que tu fais encore des ravages. Toujours beau gosse. Ah, t'en as-tu qu'un peu des greluches et des belles dans le temps.
Ah, Madame Claude, ah oui, toute une époque. Elle fait partie effectivement de nos trois personnages du jour. Certainement la plus célèbre des mères maquerelles de l'histoire à la vie. Souvent romancée, et j'ai bien connu ses filles qui ont été toutes bien mariées. On en parlera avec la comédienne Carole Rocher qui lui redonne vie dans un film sur Netflix. Mais avant elle, je vous raconterai Marguerite Gourdan. Elle aussi entremetteuse bien des années avant dans le Paris du XVIIIe siècle. Elle a été affublée du titre de surintendante des plaisirs de la cour et de la ville. Et il faut dire qu'elle en a vu passer du monde dans sa boutique. Et puis Mathieu, notre troisième personnage du jour, dont vous assurerez le portrait, sera certainement flatté d'apprendre que vous l'avez classée dans la catégorie des heureuses entremetteuses.
Ben oui, elle sera ravie Stéphane, puisqu'il s'agit de Karine Le Marchand, qui est une entremetteuse purement télévisuelle certes, mais très heureuse aussi. Je vous brosserai son portrait à 99% vrai, évidemment.
Avec nous en studio, comme chaque après-midi, il joue les entremetteurs entre l'histoire et nous. Ce sont nos heureux chroniqueurs.
Alors, j'aurais pu vous faire...
J'ai pas dit votre nom.
Oh,
donc personne ne sait que
mais
c'est
tout le monde le connaît.
Mais tout le monde vous connaît maintenant.
Oh,
c'est
oui.
Clémentine Portier-Kaltenbach.
Excusez-moi Stéphane, je vous ai coupé la flique. Ah oui, non, mais parce que je bouillais avec vos histoires d'entremetteuses. Alors, puisque c'est comme ça, j'ai beau faire une chronique impériale, eh bien moi, je vais évoquer plutôt une noix blanche, parce que la dernière femme que Napoléon a mis dans son lit, je vous en ai déjà parlé, c'est Albine de Montholon. Mais il se trouve qu'à Sainte-Hélène, eh bien, elle a rencontré une petite jeune fille, une adolescente anglaise qui se nommait Betsy Balcombe. Eh bien, c'est peut-être la dernière lumière de Sainte-Hélène. Ce fut la blondeur de cette jolie adolescente anglaise, hélas. Mais enfin, bon, il fallait faire avec son trouvé sur place. Hein.
Oh, c'est joliment dit, surtout qu'il y avait une grosse différence d'âge entre
bon,
eux.
Non,
quand
mais
même,
attendez, hein. Mais il ne s'est rien passé du tout entre eux. Mais pas du tout. Le récit l'est à Stéphane Bern. Moi,
oui,
je parlerai d'amour pur et chaste et tout à fait paternelle d'un homme en exil
magnifique.
Dans sa maturité et d'une jeune fille au sourire enchanteur.
Magnifique.
Avec nous également, on a David Cassel-Lopez qui s'intéresse à l'origine des choses de notre vie quotidienne.
Tout à fait. Et là, aujourd'hui, ce sont les chaussures à talons qui sont devenues un accessoire un petit peu chargé, hein, n'est-ce pas, aujourd'hui, parce que c'est un petit peu un symbole de ce que les femmes s'infligent, peut-être à cause de l'oppression du désir masculin, nous verrons ça.
12 cm, c'est 12 cm de plaisir,
12 cm
ou,
de plaisir.
Souffrance
ou de souffrance
pour elle. Oui. Et puis Olivier Pouls est avec nous, de quoi vous allez nous parler Olivier?
Eh bien aujourd'hui, un plat peut-être au nom énigmatique, je vais vous parler des oreilles d'âne. Alors c'est qu'on mange les oreilles de cochon, mais je vous rassure, on ne mange pas les oreilles de l'âne, l'animal.
Ah.
C'est un petit peu plus compliqué que ça.
D'accord. C'est un peu plus compliqué, mais c'est sucré, c'est salé.
C'est sucré.
C'est un plat salé. Voilà pour le premier indice.
Premier indice, vous avez le temps de réfléchir, ce sera en deuxième heure. Enfin, vous le savez, Stéphane Bern a deux hantises dans la vie.
Collaborer avec les nazis.
C'est vrai. Et aussi participer à Bern to be alive. Ce quiz historique qui chaque jour érode un peu plus ce qui lui reste de réputation.
Oh,
serrez les dents Stéphane, ça s'inverse 5h-10. Mais pas trop non plus car nous attendons votre premier récit. Nous partons à la rencontre de notre première heureuse entremetteuse de l'histoire. Elle s'appelait Marguerite Gourdan.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il fait si chaud à Paris en ce début de juillet 1783. Fiévreux, l'abbé de V prend sa plume et note. Je me ressens des chaleurs excessives de la saison et mes feux sont très considérables. J'irai les éteindre demain chez vous entre 10 et 11 heures. Je vous entrerai par la porte de derrière. Pensez à m'avoir du joli. Le libidineux ecclésiastique ne s'adresse pas à sa maîtresse, non. Il écrit à Madame Gourdan. Marguerite Gourdan. Son nom ne vous dit sans doute rien. Mais il a été fameux dans le Paris de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. La Gourdan, comme on dit familièrement, est l'une des plus grandes entremetteuses de son temps, si incontournable qu'elle a hérité du surnom de surintendante des plaisirs de la cour et de la ville. Les éléments manquent sur sa biographie. Elle serait née Marguerite Stock vers 1730 à Béziers. Elle arrive à Paris très jeune en compagnie d'un officier, mais l'affaire ne dure pas. À 18 ans, Marguerite épouse un certain François-Didier Gourdan qui lui donne son nom pour la postérité. La jeune femme exerce plusieurs métiers dans le commerce de tabac et comme marchande de mode. Déjà, on lui prête, je cite, « une vie déréglée », ce qui semble confirmer une relation avec un officier aux gardes dont elle tombe enceinte. Une petite fille naît, son géniteur dédommage Marguerite en bijoux et lui alloue une rente annuelle. Avec cette petite fortune, et parce qu'elle semble connaître le milieu, Marguerite Gourdan ouvre, alors que la loi l'interdit pourtant, un premier établissement de prostitution, rue Sainte-Anne, en 1759. Elle n'a pas 30 ans. Un auteur anonyme qui prétend l'avoir connue décrit sa figure qui, sans être jolie, avait ce piquant qui usurpe les droits de la beauté, et ajoute « toute sa personne inspirait un air de volupté qui appelle et commande le désir ». À l'occasion, Marguerite peut s'occuper elle-même d'un client, mais son ambition est bien plus grande. Elle a le sens des affaires et entend régner sur la capitale. Une lettre d'un milord anglais prouve sa réputation et ne laisse pas de doute quant à son rôle actif dans le commerce des femmes. Comme j'ai ouï dire, madame, que vous connaissez toutes les demoiselles de Paris, je vous prie de m'en tenir une toute prête pour mon arrivée.
C'est pratique, ça.
Voici comme je la veux. Âgée de 16 à 18 ans, blonde, de 5 pieds 6 pouces, taille svelte, les yeux bleus et langoureux, la bouche petite, la main jolie, la jambe fine et le pied mignon. Les prostituées recrutées par Marguerite sont des filles du peuple, domestiques, blanchisseuses, qui font face à des difficultés financières, ou bien des filles de plus haut rang qui gravitent dans les milieux du théâtre et de l'opéra. Celles-là servent d'escorte et ne travaillent pas forcément dans la maison close de Madame Gourdan, qui les met simplement en relation avec les hommes chez qui elles se rendent. En 1763, Marguerite ouvre une nouvelle maison, rue Comtesse d'Artois, toujours à Paris, d'où vient sans doute son autre surnom, la Petite Comtesse. 2 ans plus tard, elle obtient la séparation de biens avec son époux et peut enfin mener sa barque entièrement seule. Mais quelques années plus tard, le bordel est détruit par un incendie et sa patronne est envoyée à l'hôpital de Bicêtre, là où séjournent les filles atteintes de maladies vénériennes, là où l'on enferme les prostituées, les indésirables. Mais la Gourdan ne cède pas au désespoir. Là-bas, elle rencontre Justine Paris, une autre grande maquerelle, et les deux s'entendent si merveilleusement qu'elles décident de faire affaire. En 1773, elles ouvrent ensemble, toujours dans le même quartier des Innocents, une maison à l'angle de la rue Saint-Sauveur et de la rue des Deux-Portes, une rue qui s'est appelée au XIIIe siècle la rue Gratte-Cul, avec une prostitution déjà très présente dans le quartier. Justine meurt très rapidement de la syphilis et Marguerite ne cherche pas de nouvel associé. La maison acquiert une solide réputation parmi la haute société parisienne ou de passage. À l'arrivée de Madame du Barry à la cour, les rumeurs attribuent d'ailleurs l'éducation de la dernière favorite de Louis XV à Madame Gourdan. Les clients sont aussi des femmes venues vivre leurs amours homosexuels à l'abri des interdits. Au rez-de-chaussée, un tranquille antiquaire dissimule un escalier secret dans son arrière-boutique qui permet d'entrer incognito dans la maison. Il mène au vestiaire, pièce où l'on peut se changer pour ne pas être connu. À l'aide d'un cordon et après entretien avec le visiteur, la mère Maquerelle prévient la fille choisie. Au besoin, la maison fournit des déguisements pour qui veut jouer un rôle, devenir valet ou se faire bourgeois. Une pièce dédiée, l'infirmerie, propose à ces messieurs de soigner leurs pannes intimes en regardant des gravures obscènes. Le cabinet de bain, lui, garantit l'hygiène des prostituées. Sur ce sujet, Marguerite Gourdan est intraitable. D'ailleurs, elle a consigné la plupart de ses préceptes et de ses règles dans un recueil très explicite. Pour le centre de la volupté, on doit souvent rafraîchir les charmes. L'amour ne veut pas que son dard se plonge dans la fange. Ah, vous avez compris.
Oui, je crois que j'ai compris, Stéphane. J'adore l'accent que vous prenez pour imiter Madame Gourdan.
C'est Madame Gourdan un peu prude.
Oui, c'est ça.
La mère Maquerelle délivre aussi des conseils plus stratégiques aux filles qui veulent réussir dans le milieu. Affectez toujours le grand plaisir dans l'amoureuse jouissance, quand même vous seriez insensible. Il faut savoir se porter au goût bizarre des hommes. Mais avant, montrez un peu de répugnance et faites croire en cédant que c'est par amour. Voilà le grand art. Madame Gourdan est la figure incontournable de la prostitution de luxe parisienne et sa maison est au fait de sa gloire. Mais quand on exerce la profession de proxénète, il faut s'attendre à quelques péripéties. En septembre 1775, une bien fâcheuse nouvelle parvient à Marguerite Gourdan. Si elle a toujours réussi à échapper à la police, cette fois, un arrêt ordonne la prise de corps de Marguerite Gourdan, c'est-à-dire son arrestation pour une sombre affaire d'incitation à la débauche. Marguerite Gourdan sait qu'elle est en fâcheuse posture. En quelques heures, elle licencie son personnel et prend la fuite. Si l'on en croit une chronique de l'époque, la mère Maquerelle est condamnée par contumace à être conduite par les rues de son quartier, montée sur un âne, visage tourné vers la queue avant d'être battue en public. Comme elle est absente, la sentence est tout de même exécutée et c'est un mannequin de paille qui la remplace. Malgré tout, Marguerite décide de rentrer à Paris et de se constituer prisonnière seulement 2 mois plus tard. Elle peut compter sur un certain nombre de personnalités de la cour qui témoignent en sa faveur. Les poursuites sont abandonnées. Le lupanar de la rue des Deux Portes peut rouvrir. Et le business reprend de plus belle. « J'ai à votre service, madame, écrit un fournisseur, des boules chinoises, des vies postiches, des godemichés à seringues et à pistons, des martinets à clous. Si quelques-uns de ces articles vous conviennent, répondez-moi par le porteur. » Hélas, pour la petite comtesse, les maisons concurrentes n'ont pas sagement attendu son retour. Elles se sont au contraire attachées à conquérir le cœur des clients abandonnés en leur offrant de meilleures prestations. Petit à petit, les plus belles filles et les plus fortunés clients partent chez la Brissot ou chez la Montigny. Et puis, Louis XV est mort et son successeur n'a pas son goût de la débauche. Une ère nouvelle de mœurs plus austères s'ouvre. La cour, pour plaire à Louis XVI, se réfrène. Les affaires déclinent, mais Marguerite Gourdan survit jusqu'à ce jour de novembre 1783 où, sortant de souper, elle tombe malade et meurt subitement. On présume, raconte la même chronique, qu'elle pourrait bien avoir été empoisonnée. Les rapports qu'avait cette appareilleuse avec ce qu'il y a de plus grand la mettaient dans le cas de se faire beaucoup d'ennemis. Et de ce mystère-là, voyez-vous, Mathieu, on ne saura jamais rien.
Europe 1, historiquement vôtre.
Essayons quand même d'en savoir plus. Pour continuer à parler de Marguerite Gourdan, nous sommes avec l'auteur Julia Torlet. Bonjour Julia.
Bonjour.
Oui, bonjour Julia Torlet. Vous êtes professeur de lettres et l'auteur du livre « Le monde de la prostitution à Paris au XVIIIe siècle, métier de corps, corps de métier » qui est publié eh bien, chez l'Arnatan. Madame Gourdan est, selon vos propres mots, l'une des maquerelles les plus connues et respectées de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ça tient de quoi ce respect unanime dont elle jouit ?
Alors, ça s'explique par 2 paramètres, je pense. Le premier, qui est très concret, c'était la puissance effective qu'elle avait à Paris, c'est-à-dire qu'elle possédait une espèce d'empire de la prostitution. Mmh. Il y avait sa maison, ses maisons pour être exact, qui ont été successives. Et puis la mainmise qu'elle avait sur un grand pan de l'activité de prostitution à Paris, ça c'est une chose. Et puis le deuxième paramètre, c'est l'historiographie, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup écrit sur Madame Gourdan. Mmh. Et assez étonnamment, on a écrit sur elle au moment où elle exerçait, au XVIIIe siècle. Et puis, on a ensuite beaucoup écrit sur elle, au XIXe siècle, encore un peu au XXe siècle. Mmh. Donc, ça lui a donné une aura assez conséquente.
Alors, il y a ce côté, évidemment, licencieux, érotique, qui fascine. Mais ce qui frappe dans le parcours de Madame Gourdan, c'est plutôt son ambition. C'était une grande entrepreneuse, on dirait aujourd'hui, en plus d'être une maquerelle, ou peut-être même avant, c'était quelqu'un qui entreprend, c'était une businesswoman.
Oui, tout à fait. C'était, je pense, une espèce de femme d'affaires, le terme étant évidemment un peu anachronique, mais c'est totalement ça. Hein. Vous l'avez dit d'ailleurs dans votre portrait, avant de devenir mère Maquerelle, elle a été vendeuse, elle a travaillé dans un magasin de mode, elle a tenu un débit de tabac, donc elle a un lien très fort avec le commerce. Et d'ailleurs, on le voit au fur et à mesure du portrait que vous avez brossé, elle sait rebondir, c'est-à-dire qu'elle ouvre un premier établissement, il ferme, elle en ouvre un deuxième, un troisième, donc elle sait rebondir. Oui, il y a dans cela un sens du commerce qui est certain.
Il y a, cependant beaucoup d'incertitudes sur la vie réelle de Madame Gourdon. Il y a sa correspondance, d'ailleurs, sur laquelle vous appuyez beaucoup dans votre livre. Est-ce plus généralement compliqué, en fait, d'avoir des informations historiques bien précises sur la prostitution à Paris au XVIIIe siècle? C'était un sujet dont on ne parlait pas trop ?
Oui, tout à fait. Alors cette question-là, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu quand on travaille sur cette thématique-là, parce que la prostitution est un sujet extrêmement difficile à voir apparaître dans les sources. Et en gros, il y a deux corpus de sources sur lesquelles on peut s'appuyer, mais qui fonctionnent très différemment. C'est-à-dire qu'il y a des sources qui sont très factuelles, mais qui sont des sources assez sèches, c'est-à-dire qu'il y a les sources policières et les sources des hôpitaux. Mais quand je dis que ce sont des sources sèches, c'est parce que là-dedans, il n'y a que de brèves informations extrêmement factuelles. On va avoir, par exemple, dans des registres d'arrestation par la police, on va avoir le nom de la fille qui est arrêtée, éventuellement son âge, le motif de l'arrestation, le lieu où on l'a arrêtée, et c'est à peu près tout. Ça nous permet, en compilant ces sources-là, d'avoir quelques chiffres, d'avoir un profil, une identité des filles qu'on croise, mais c'est assez sec. Et de l'autre côté, le deuxième corpus de sources qui se dégage, ce sont des sources qui sont beaucoup plus littéraires, mais qui sont tout aussi, pour d'autres raisons, difficiles à exploiter. Parce que au XVIIIe siècle, mais comme dans les siècles suivants et comme encore aujourd'hui, c'est une figure qui est rebutante pour la société, mais qui est aussi fascinante. Oui. Et ça se retrouve très bien dans les sources littéraires, c'est-à-dire que la prostitution est évoquée avec tout une espèce d'appareil fantasmagorique, et il est très difficile, quand on travaille d'un point de vue historique, de démêler le vrai du faux. Après, on peut malgré tout utiliser ces sources-là, parce qu'on peut lire parfois en négatif des informations dans ce que la fiction littéraire propose malgré tout.
En lisant certaines lettres que vous partagez, d'ailleurs dans votre ouvrage, on se rend compte qu'elle avait une relation assez particulière avec ses filles. C'était une mère protectrice, mais on sait combien il y avait de filles qui travaillaient dans ces bordels?
Oui, alors ça c'est une question qui est intéressante, parce que ça interroge la notion qu'on a tendance, nous, à utiliser très fréquemment, qui est celle de maison close. Au XVIIIe siècle, on ne parle pas de maison close, on parle de maison que nous, aujourd'hui, avec notre œil du XXIe siècle, on pourrait qualifier de maison semi-ouverte. Semi-fermé, ça dépend dans quel sens on regarde.
C'est des maisons de tolérance ou comment on appelle
ça ? En fait, c'est des maisons qui fonctionnent avec assez peu de pensionnaires ou de résidentes. On utilise ces termes de pensionnaires ou de résidentes. Mais il y en a assez peu. Hein. Il y en a entre 2 et 5 selon la taille de la maison. Donc c'est vraiment très peu. En revanche,
par contre, elle a un carnet.
Voilà, exactement. En revanche, il y a beaucoup plus de filles qui travaillent pour ces proxénètes et qui utilisent la maison pour leur activité, mais de manière beaucoup plus ponctuelle.
Mais dans ce cas-là, il y a des billets. Je veux dire, il n'y avait pas de téléphone portable, on peut le rappeler, il n'y avait pas de mail, donc il fallait bien prendre rendez-vous. Donc j'imagine qu'on envoyait un billet au porteur et on allait contacter les filles en disant venir à telle heure. Ou...
Tout à fait, et ça explique d'ailleurs la correspondance extrêmement abondante entre Madame Gourdon et ses filles, et de manière générale dans le monde de la prostitution, parce qu'on s'écrit beaucoup. Et vous me posiez la question de la relation entre Madame Gourdon et ses filles. Oui, effectivement, la terminologie de mère qu'on retrouve un peu partout dans cette fameuse correspondance, mais aussi dans les rapports de police, on la retrouve un peu partout. Ce mot de mère, de maman, de chère maman, bonne maman, etc., on retrouve toutes ces expressions-là. Oui, elle montre effectivement un lien qui est extrêmement fort entre la proxénète et ses filles, et qui se joue à plusieurs degrés. Vous l'avez évoqué dans votre portrait, effectivement, les proxénètes récupèrent des filles qui sont très souvent en difficulté lorsqu'elles arrivent, qui ont un peu besoin d'être sorties soit de la rue, soit d'une situation difficile. Et donc, il y a cette espèce de protection et presque de sauvetage qui intervient en premier lieu. Ça, c'est un premier point. Et puis ensuite, la proxénète, lorsqu'elle accueille la fille, elle l'éduque. Et pour ça, il y a tout
elle
un processus.
Elle fait son éducation.
Exactement.
Il y a cette lettre que vous citez de Mademoiselle Eulalie. « Je n'oublierai jamais, ma chère maman, toutes les obligations que je vous ai, puisque c'est vous qui m'avez mise dans le monde, votre cher enfant. »
Exactement.
Donc ça, c'est un remerciement à Madame Gourdon.
Tout à fait. Il y en a quelques-uns comme ça, des remerciements. Et puis, parfois, on a, au travers des sources, quelques lettres qui montrent l'exact inverse, c'est-à-dire une fille qui en veut profondément à sa proxénète. On en a quelques-unes pour Madame Gourdan, parce que elle l'a à un moment donné abandonnée, elle l'a livrée à un client peu scrupuleux sans la protéger ensuite. Mmh. Donc parfois il y a à l'inverse quelques lettres de reproche.
Enfin, elle ne peut pas être sous le lit non plus, hein, pauvre Madame Gourdan.
Ah oui, mais c'est sa responsabilité par contre. Ah, c'est vraiment, c'est pour ça aussi le terme de mère est très important aussi pour ça. C'est vraiment une responsabilité s'il y a une maltraitance, un danger, de protéger ses filles et si besoin, d'assurer les arrières, c'est-à-dire de protéger une fille qui aurait été blessée, de la soigner, etc.
Vous partagez certaines lettres de motivation, on peut les appeler ainsi, de futurs recrues de Madame Gourdan. Quels étaient les critères pour entrer dans le sérail de la Gourdan ? C'était sélectif ?
Non, pas foncièrement. C'était souvent sur demande des filles elles-mêmes, c'est-à-dire que généralement la démarche est volontaire de la part des prostituées, surtout dans ce milieu de la prostitution assez luxueuse comme l'est celle de Madame Gourdan. Mmh. Après, en revanche, c'est pas que c'est sélectif, mais il y a quand même quelques étapes auxquelles on ne déroge pas. Et par exemple, il y a la question du pucelage et la question du consentement des parents. Ça, c'est deux choses auxquelles les proxénètes sont extrêmement vigilantes. C'est-à-dire qu'une proxénète ne reçoit jamais dans son sérail, et Madame Gourdan en a fait l'expérience plusieurs fois, une jeune fille qui serait vierge. Ça n'est absolument pas possible. Mmh. Déjà parce que c'est interdit par la police. Cette règle-là, les proxénètes et Madame Gourdan la respectent absolument. Donc s'il doit y avoir un dépucelage, il se fait en dehors du sérail et pas à l'intérieur. Donc,
vous parlez de consentement des parents, mais les parents placent leur fille chez Madame Gourdan.
C'est mais tout non. à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit la démarche de venir chez une proxénète est volontaire de la part de la fille, et dans ce cas-là, on s'assure simplement que les parents sont consentants, qu'ils acceptent cette démarche-là. Mais parfois, comme vous le dites absolument, il y a une espèce de placement des parents de leur fille chez une proxénète, tout simplement parce que c'est d'une part une forme, c'est une forme en fait de possibilité d'échappatoire. Hein. Mmh. On peut sortir de la rue par ce biais-là. Et puis, c'est une véritable protection. Les proxénètes, et Madame Gourdan particulièrement, sont des femmes puissantes à Paris. Mmh. Donc, c'est une protection aussi.
Parmi les lettres de motivation dont on parlait, il y en a une quand même qui m'a frappé, dans laquelle une femme, une parisienne, dit vouloir s'engager auprès de Madame Gourdan, entre autres pour se venger de son mari infidèle en lui faisant 1000 infidélités. Dans le fond, certaines de ces filles étaient très libres. La prostitution, ça pouvait être aussi synonyme d'une forme d'émancipation dans l'esprit de certaines ?
Oui, en un sens. Alors là, on commence à toucher à des questions qui sont valables au XVIIIe siècle et qui sont en réalité encore des questions de fond aujourd'hui quand on pense à la prostitution. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce d'ambiguïté qu'on ne saurait démêler sans poser mille et une nuances sur le caractère volontaire de la prostitution et la liberté que ça peut représenter. Oui, évidemment qu'en un sens, l'activité de prostitution permet une certaine liberté, une certaine indépendance. Un gain d'argent dans certains cas, c'est pas forcément le cas des filles chez Madame Gourdan, mais c'est le cas de Madame Gourdan elle-même, hein, parce qu'elle tient ses filles aussi par l'argent. Hein. Et donc, pour une femme qui parvient à faire carrière au bout d'un moment dans la prostitution, c'est aussi une forme de liberté. Là, avec l'exemple de la lettre que vous venez de citer, il y a un peu de ça, hein. Il y a un peu cette espèce d'indépendance, au moins de volonté, c'est-à-dire que cette femme qui demande à être engagée fera ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, donc il y a ça. Mais il ne faut évidemment pas négliger aussi la part de contraintes et surtout de contraintes sociales qu'il y a derrière. On parlait d'échapper à la misère par la prostitution. Échapper à la misère, évidemment, c'est une contrainte sociale. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a aussi beaucoup de filles qui atterrissent chez les proxénètes parce qu'elles ont été violées, elles ont été déshonorées, elles se sont retrouvées enceintes. Donc ça aussi, ce sont des formes évidemment de violence et de contraintes qui poussent parfois à la prostitution. Donc c'est un débat qui est très délicat mais qui donne évidemment matière à réfléchir.
Il y a une question intéressante, c'est vous rappeliez quelques règles, donc il fallait ne pas être vierge, avoir le consentement des parents. Est-ce qu'il y avait un autre protocole assez strict que Madame Gourdan imposait à ses filles ?
À l'intérieur de la maison, oui. La maison était truffée de règles. Et ça se voit d'ailleurs, ça c'est assez intéressant, dans l'architecture même de la maison de Madame Gourdan. on connaît cette architecture parce que au moment du décès de Madame Gourdan, il y a eu une espèce d'inventaire après décès et on a la visite du lieu. Et en fait, c'est assez amusant à voir aujourd'hui parce que les pièces se succèdent avec un ordre qui est très rigoureux et qui organise en fait l'activité. Mmh. Et vous l'avez évoqué dans votre portrait, il y a notamment un accent qui est mis très très fort sur l'hygiène. Madame Gourdan était l'une des pires. Hein, une des pires de Paris, elle était absolument...
Elle pouvait virer une fille si la fille n'était pas...
En tout cas,
ne respectait pas le protocole.
Oui, probablement, parce qu'en tout cas, on a plusieurs lettres de rappel à l'ordre sur l'hygiène. Donc oui, elle était extrêmement pointilleuse sur l'hygiène. Et donc oui, il y avait tout un protocole. Mmh. C'est pareil, on a de la main de Mme Gourdan, on a toute une espèce de déroulement d'une journée type d'une fille dans son sérail avec ses activités qui se succèdent progressivement. Donc oui, les choses étaient extrêmement réglées,
c'était
extrêmement cadrées.
C'était un peu le même genre d'activité toute la journée, non ?
Eh ben non, justement, pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une part de la journée, quelques heures dans la journée qui sont réservées à la prostitution spécifiquement. Mais il y a aussi l'hygiène qui prend une grande part. Aussi, quelques heures dans la journée, ça c'est plus surprenant, mais c'est très intéressant, qui sont dédiées à l'éducation et notamment à une éducation assez poussée. C'est-à-dire que chez Madame Gourdan, qui est, on l'a dit, une proxénète de luxe, on apprend les bonnes manières. On apprend à se tenir et on reçoit également une éducation intellectuelle et artistique. Et ça, c'est
pour
plus
pouvoir discuter un peu sur l'oreiller.
Exactement. Oui, et pas que sur l'oreiller, surtout autour de la table. Oui, parce que les prostituées qui sont envoyées pour travailler hors de la maison de Madame Gourdan, elles assistent évidemment avant tout à des dîners, à des réceptions. Mmh. Et donc là, il faut aussi être capable d'avoir de la conversation, de l'esprit. Oui. Il ne faut pas oublier qu'on est au 18e siècle.
On est au 18e. Hein. Je sais que Mathieu Brulle, vous posez des questions sur la police, mais moi j'ai une qui me brûle les lèvres. Est-ce que dans les correspondances, on a des noms ? Les noms de ceux qui faisaient appel aux prostituées de Madame Gourdan, et notamment ceux qui ont fini par épouser, ou en tout cas, s'il y a des prostituées qui ont fait une belle fin ? Vous voyez, en faisant un bon mariage.
Ça arrive parfois. Ce n'est pas les cas les plus fréquents, mais ça arrive parfois que des prostituées qui ont gravi les échelons, qui ont évolué, qui sont sorties d'un sérail pour devenir femmes entretenues et qui finalement, au bout de leur entretien, ont réussi à épouser l'homme qui les entretenait. C'est assez rare, mais ça arrive quelquefois. Et peut-être pour lier vos deux questions et satisfaire la curiosité de Mathieu sur la police.
Oui, je
vous en prie. Il y a effectivement, bien sûr, un lien, puisque les femmes entretenues sont entretenues par des hommes qui ont généralement une certaine puissance, qui ont un nom reconnu. Et c'est aussi pour ça que la police laisse cette tolérance envers les femmes entretenues. C'est parce qu'elles sont aussi une source de regard, de renseignement pour la police. Donc c'est pour ça qu'il y a une tolérance.
Donc on est d'accord que, parce que ça, dans le récit de Stéphane, qui, Dieu sait, était passionnant et informé, il y avait ce point de détail quand même, on ne comprend pas trop dans quelle mesure ces maisons de prostitution sont autorisées ou interdites, ou tolérées. C'est que dit la loi à cette époque-là, tout simplement.
Eh bien alors... Que dit la loi ? La loi dit que la prostitution, théoriquement, doit être interdite. Ce que dit le fait, c'est qu'en réalité, ce que ne supporte pas la police, ça n'est pas la prostitution, c'est le scandale. Et donc, ce qu'on va punir, ce qu'on va réprimer, c'est l'activité qui se voit et l'activité qui a d'autres conséquences. Et celles qui sont véritablement punies et qui subissent la répression, ce sont les filles des rues. Tout simplement parce qu'on les voit, parce qu'elles sont là.
Elles font du racolage, en gros.
Oui, et alors par contre, ce qui est assez étonnant, mais bon, finalement pas tant que ça quand on y réfléchit, c'est qu'elles ne sont jamais arrêtées pour racolage. Quand on lit les registres d'écrous de la police ou des hôpitaux de Paris, on se rend compte qu'elles ne sont pas arrêtées pour prostitution. Elles sont arrêtées parce qu'elles ont fait du tapage dans les rues, parce qu'elles ont volé, pour escroquerie ou que sais-je encore. Mais c'est vraiment ce qui se voit qui dérange la police. Donc les maisons et les filles entretenues qui sont, elles, non seulement beaucoup plus discrètes, mais qui sont encore aussi une source de renseignement pour la police, bien sûr, on les tolère.
Et un mot de la clientèle, on l'a dit, c'était une clientèle VIP, comme on dirait aujourd'hui. Est-ce que ça rehaussait l'image de ce métier qui était la prostitution ? Et finalement, quelle image avait la prostitution au XVIIIe siècle par rapport à aujourd'hui ?
Alors, rehausser... Bon, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, oui, ça fait compter les proxénètes qui possédaient des maisons puissantes à Paris, comme Madame Gourdan, comme Justine Paris, que vous avez citée, et puis comme d'autres encore. Ça leur a donné, oui, l'image d'une certaine notoriété, d'une certaine puissance. Donc ces proxénètes-là, qui étaient pour majeure partie des femmes, elles avaient, oui, une certaine puissance. En revanche, la prostitution de manière générale, non, ça n'a pas foncièrement arrangé la situation, parce que finalement, il n'y avait pas grand rapport entre ce qui se passait dans les rues chez les plus miséreux et ce qui se passait sous le toit d'une Gourdan, par exemple.
Oui. Merci Julia Torlet. Je rappelle le titre de votre ouvrage très documenté, Le monde de la prostitution à Paris au XVIIIe siècle, Métier de corps, corps de métier, publié chez l'Harmattan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous remercie.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, des 16h historiquement vôtre vous racontent l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires dans des chroniques qui feront date, assurément. Clémentine Portier-Kaltenbach, aujourd'hui, vous nous racontez le dernier coup de cœur de l'empereur Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, pour une jeune Anglaise, Betsy Balcombe.
Oui, c'est vraiment le coup de cœur d'un homme un peu vieillissant pour une jeune femme, si vous voulez. On ne peut pas vraiment parler d'histoire d'amour, même si évidemment on a fait mousser toute cette histoire. En réalité, quand il débarque à Sainte-Hélène le 17 octobre 1815, on lui destine une maison, Longwood House, mais elle est encore en travaux, elle n'est pas en état, donc il faut bien lui trouver un logement provisoire. L'empereur jette son dévolu sur une petite maison, un petit pavillon qui se trouve dans le domaine des Briards. Les Briards, avec un bon accent français. C'est une très jolie maison abritée du vent, de l'humidité, des pluies. Ce ne sera pas le cas de Longwood House. On lui a vraiment installé une maison dans l'endroit le pire de l'île, le pauvre Napoléon. En attendant, donc, il vient loger chez la famille Balcombe. William Balcombe, le père, travaille pour la Compagnie anglaise des Indes orientales. Donc, c'est lui qui va s'occuper de pourvoir à tous les besoins de cette petite communauté française qui débarque sur l'île. Et cet homme, William Balcombe, a 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et Betsy a à peine 14 ans. Elle est née en 1802. Elle a une fille aînée, une sœur aînée, pardon, mais c'est elle qui va nouer une grande amitié avec Napoléon. Elle est très, très jolie. C'est la vraie petite fille anglaise, vous voyez, avec ce blond finement doré des Anglaises très jeunes, un visage un peu rosé, un teint de porcelaine, des jolis yeux bleus malicieux, un peu, c'est vraiment la jolie petite poupée, si vous voulez. Mais très important, elle parle français, parce que Napoléon ne parle pas l'anglais du tout. Si, pendant la traversée à bord du bateau, il a quand même appris quelques mots avec l'ascase, mais il ne se mettra à l'anglais que plus tard, parce qu'il voudra lire la presse et il va réaliser que le fait de ne pas parler l'anglais le handicape vraiment et le prive d'informations un peu récentes. Mais quand il arrive, en tout cas, il ne parle quasiment pas l'anglais. Or, Betsy le parle, elle, et donc ça l'amuse en même temps de faire un peu la traductrice, sauf qu'au départ, elle a peur de lui. Elle a peur de lui parce que la réputation de Napoléon...
C'est l'ogre.
Exactement. Donc elle a plutôt peur, mais finalement, ils vont devenir d'excellents amis. Elle l'appelle Bonnet et il va habiter dans ce petit pavillon sur le domaine des Briards, Napoléon, pendant un gros mois et demi, disons. Alors elle raconte, Betsy, parce qu'elle a évidemment raconté ses mémoires, qu'elle a été impressionnée par l'extrême pâleur du captif, par la beauté de ses traits de médaille romaine, l'enchantement de son sourire très bon. Et il va tolérer de la part de Betsy vraiment de n'importe quelle facétie, n'importe quelle impertinence. Elle se permet tout, elle se pend à son bras. Un jour, on la voit attaquer Napoléon à l'épée. Un autre, elle rafle tous les papiers sur son bureau. Évidemment, tout l'entourage de Napoléon la trouve absolument insupportable, mais lui ne peut pas s'en passer. Elle lui cueille des roses, elle arrive en courant, elle se jette dans ses bras. Enfin, elle le dérange pour un oui, pour un non. Ses parents vont la sermonner, mais en vain. Et Napoléon, il y a certainement chez lui un manque. La privation de son enfance est quelque chose de très cruel et souvent il prend les 2 petits garçons Balcombe sur ses genoux et il joue avec ses décorations.
Clémentine, il n'y aura aucune espèce d'ambivalence ou en tout cas de malentendu entre les deux. Il n'y aura jamais de
Alors écoutez, elle est restée quand même, ils sont partis en 1818 de Sainte-Hélène, les Balcombes. Donc là, quand il arrive, elle n'a pas 14 ans, mais 3 ans plus tard, bon, c'est une vraie adolescente, elle a 17 ans, elle est jolie, elle est assez mûre, elle a des formes. Bien sûr, Gourgaud, dans ses souvenirs, donne à penser que l'attachement de l'empereur pour Betsy était vraiment très vif, à la limite de l'attachement amoureux. Il décrit la jalousie de Napoléon quand Napoléon voit Betsy badiner avec des officiers anglais. Évidemment, à Jamestown, on a potiné sur l'histoire de Betsy et de... Oui, c'est l'expression du moment. Hein, le sot marquis de Montchenu, commissaire du roi de France à Sainte-Hélène, a fait de très vilains ragots sur les Briards et sur cette relation entre Napoléon et Betsy, et au point que le père de Betsy a bien failli le provoquer en duel. Bon, Napoléon a haussé les épaules, totalement indifférent à ses insinuations, et pour consoler Betsy, il lui offrira d'ailleurs une bague en or avec un N en diamant. Ce qui surtout inquiétait les Anglais, c'est que Hudson Lowe, le gouverneur de Sainte-Hélène, était persuadé que les Balcombes faisaient passer des messages de Napoléon. Donc, je le disais, il quitte Sainte-Hélène en 1818. Betsy va se marier en 1832 avec un certain Edward Abel. C'est ce qui a permis au scénariste de Monsieur N d'imaginer qu'en fait, il avait quitté Sainte-Hélène et qu'il épousait une certaine Abel, il devenait Monsieur Abel. Mais c'était le nom de femme mariée de Betsy Balcombe, Abel. Et elle s'est retirée à Londres, elle a divorcé, elle a fini par vivre en donnant des leçons de musique, mais elle n'a jamais cessé de rester en contact avec la famille Bonaparte. Joseph Bonaparte a été la voir à Londres en 1830, et le prince Louis-Napoléon, futur Napoléon III, lui a fait de très fréquentes visites. Chose étonnante, c'est qu'au moment du Second Empire, elle va même essayer d'être nommée dame d'honneur de l'impératrice Eugénie. Ça a été refusé, mais Napoléon l'a quand même remerciée en lui octroyant 500 hectares de terre de vigne en Algérie, près de Constantine. C'est quand même un curieux cadeau impérial, en souvenir de son amitié pour son nom. Je le disais, elle meurt en 1871 à 69 ans. Elle avait publié des articles nombreux, un livre de souvenirs, évidemment. Quand on a republié en 1965 les souvenirs de Betsy Balcombe, on les a fait paraître sous un titre racoleur. Une idylle de Napoléon à Sainte-Hélène, mais jamais de la vie. Elle a été simplement un sourire dans la vie du dernier empereur, une lumière blonde. Peut-être le soleil de Sainte-Hélène, c'était Betsy Balcombe. Et je voudrais finir en ajoutant tout de même que c'est la petite nièce de Betsy Balcombe qui a racheté le pavillon des Briards et qui l'a offert à la France. C'est quand même une belle histoire, de fidélité et d'amitié.
Merci beaucoup Clémentine.
Merci Clémentine, vous restez avec nous après dans l'intimité de l'histoire. Partons dans l'intimité de la défaite avec le quiz de Stéphane Bern et Clémentine.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Et c'est l'heure du quiz, l'heure hélas de toutes les infamies. En effet, dans l'espoir, souvent douché, de remporter un jour une édition du quiz, Stéphane tente par tous les moyens de déstabiliser Clémentine en répandant sur elle d'affreuses rumeurs expliquant qu'elle est usée,
ridée, fatiguée, bouchie, le menton proéminent, la mise en pli exagérée.
Mais Stéphane, je vous en prie, un peu de classe, un peu de dignité, jouons à Bern to be alive. Alors,
Bern la mise en pli exagérée, ça c'est...
C'est tout toi. Moi.
Je pense que je parlais d'un autre personnage de l'histoire.
Vraiment.
Vous, monsieur.
Oui. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Si tout se passe normalement, la Barbade sera une république en novembre prochain. Cet État, indépendant depuis 1966, ne veut plus de la reine d'Angleterre comme chef d'État. Le pays prend ses distances avec son passé colonial et pourtant, le 2 juin est férié à la Barbade en hommage au 2 juin 1953, date du couronnement d'Elisabeth II. Vrai ou faux ?
Ah là 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 là.
Voilà une question historique.
Bah, s'ils en veulent plus, c'est que...
Oui, mais il est férié jusqu'à présent. Il est, donc ça peut être une survivance d'années d'appartenance.
Moi, je pense que c'est pour une autre raison que le couronnement de la reine Elisabeth II.
Moi, je pense que vous vous trompez.
Vous pensez que c'est à cause du couronnement ?
Si, c'est une fête ancienne, apparemment. Enfin, jusqu'à présent, tous les 2 juin, c'était...
C'est férié, mais peut-être pas à cause de la reine Elisabeth.
Bon,
je pense que c'est férié le 2 juin,
mais pour une autre raison
que le couronnement d'Elisabeth II.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, bravo, Stéphane. Vous avez bien fait de ne pas écouter Clémentine. C'est le jour férié, c'est le 20 février, et c'est la date d'anniversaire de Rihanna, véritable icône pour l'île. Beaucoup plus que la reine. Beaucoup plus.
C'est Queen Rihanna.
Queen Rihanna. Question numéro 2 pour
parce
vous.
Parce que moi, j'ai cru que c'était une fête, un jour férié ancien. C'est pour ça, je me suis dit, c'est tout à fait logique.
Bon. Oui, mais votre raisonnement ne me dit pas la bonne réponse.
Je suis trop vieille dans un monde trop jeune, c'est ça.
C'est bien dit. Question numéro 2, vous pouvez vous rattraper, Clément. Qui sont plus nombreux, les hommes qui ont marché sur la Lune ou les hommes qui se sont mariés à Elizabeth Taylor?
Je pense que sont plus nombreux les hommes qui se sont mariés à Elizabeth Taylor.
Vous avez perdu.
Voilà, c'est une constante chez vous. C'est-à-dire que quand vous raisonnez très longtemps, au bout du raisonnement, il y a la bonne réponse. Quand vous allez trop vite, quand vous vous précipitez, c'est souvent l'erreur qui est au tournant.
Je me disais, attendez, des hommes qui ont marché sur la Lune, il y a Armstrong, Aldrin, le dernier n'y a pas marché. Il y a eu une autre mission lunaire. Ils étaient quoi, 2 ou 3? Donc en fait, il y a peut-être 5 hommes qui ont marché sur la Lune, non?
Je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour vous en souvenir.
Et 6 maris d'Elizabeth Taylor, c'est ce que je me suis dit, moi.
Alors, bon. Je vais vous donner un moyen mnémotechnique. Vous pouvez compter les maris d'Elizabeth Taylor sur les doigts de vos deux mains. Vous ne pouvez pas compter sur vos deux mains le nombre d'hommes qui ont marché sur la Lune.
Je sous-estime le nombre d'hommes qui ont marché sur la Lune.
Effectivement, il y a plus d'hommes qui ont marché sur la Lune que d'Elizabeth Taylor de mari. Ils sont 12 à avoir marché sur la Lune, tous américains.
J'aurais jamais pensé ça.
Oui, parce que d'autres expéditions n'ont pas été médiatisées comme la première. Oui. Les mariés d'Elizabeth Taylor sont 7. Elle s'est mariée 2 fois avec Richard Burton. Par contre, sachez que tous les hommes qui se sont mariés avec Elizabeth Taylor
ont tous marché sur cette Lune.
Ils ont tous marché. Stéphane, comment osez-vous une blague aussi? Vous la connaissez bien en plus, Elizabeth Taylor.
Oui, j'ai bien connu autrefois.
Vous avez pris l'avion avec elle.
Non, j'ai voyagé avec elle sur place en Thaïlande, oui.
Oui, des beaux souvenirs.
Oui.
Question numéro 3. On ne sait absolument pas pourquoi, mais sur beaucoup de manuscrits médiévaux, beaucoup de chevaliers sont représentés en armure combattant des escargots ou faisant des duels dans des tournois entre chevaliers et chevauchant également des escargots. Est-ce vrai ou faux?
Alors, honnêtement, je n'ai jamais vu ça.
Et Dieu sait que vous en avez visité.
Des chevaliers terrassant le dragon, terrassant...
des animaux.
Des escargots.
Des escargots, non, j'ai jamais vu ça. J'avoue mon ignorance. J'ai jamais vu
ça. Mais est-ce de l'ignorance ou est-ce simplement déjouer le piège d'une question
de quiz? Je ne sais pas. En tout cas, par humilité, je dirais que c'est par ignorance.
Donc, vous répondez. Vous répondez que les chevaliers combattaient des escargots?
Oui, jamais. Non.
Vous avez perdu.
C'était bien votre ignorance, Stéphane. On ne sait pas pourquoi, c'était beaucoup le cas au XIIIe et au XIVe siècle. Selon certaines explications, c'était une façon de représenter les Lombards qui avaient une réputation de traîtres, ou c'était une façon de se venger des escargots qui étaient de dangereux parasites pour les récoltes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'en sait vraiment rien. Les chevaliers combattant des escargots, c'est donc bien vrai.
Oui, mais enfin, vous faites des généralités. Si on n'a jamais vu ça de notre...
À vous non plus ?
Non, moi ça ne me dit rien du tout, cette histoire-là.
Nous enquêterons, mais je pense que personne qui fait ce quiz, qui est au moins agrégé d'histoire...
Oui, mais enfin, il ne faut pas nous dire, souvent au Moyen-Âge, on voyait dans l'iconographie
des chevaliers... C'est dans 3 églises de
Lombardie. Non, mais n'importe quoi.
Une rébellion. Vous savez comment on matait les rébellions au Moyen-Âge. Je vais balancer l'huile bouillante, attention.
Non, c'était pas
jamais on balançait l'huile bouillante.
C'était de la poix, vous l'avez dit.
Qu'est-ce qu'il faut pas entendre?
Insurrection.
Non,
rébellion.
Ça suffit. Je restaure mon autorité dans ce quiz. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Les historiens s'accordent pour dire que c'est en 1974 qu'a eu lieu le plus grand vol de voitures de tous les temps. 7 camions ont vu leurs conducteurs contraints de laisser leur place et leurs marchandises. Ils contenaient 8 voitures chacun. Ça s'est passé en Suède. Vrai ou faux?
Alors là, non mais vous voulez vraiment...
C'est des Volvo ou des Saab?
Je ne peux pas répondre à cette question.
C'est le plus grand vol de voitures en un seul jour.
Si je vous pose la question, c'est en fait que ça dissimule quelque chose d'un peu historique en tout cas.
Qu'est-ce que c'est? C'est un vol de carrosses? Un vol d'escargots, des montures médiévales bien connues? Eh bien, je répondrai oui à cette question dont j'ignore tout.
Vous répondez oui à cette question. Vous avez perdu. Même si c'est en 1974 qu'a vraiment eu lieu le plus grand vol de voitures de tous les temps. Mais ça ne s'est pas passé comme j'ai décrit. Ça s'est passé de façon beaucoup plus simple. Kim Il-sung a commandé à Volvo 1000 voitures de couleur vert sapin, mais il n'a jamais payé. Heureusement pour Volvo, l'État suédois s'était porté garant. Voilà le lien avec l'histoire. Stéphane remporte ce quiz. Ouais. Alors, mais ouais, il n'a pas répondu à une seule bonne question. Ah si ?
Si, si, la première.
Oh, la première, ça suffit à faire la différence aujourd'hui.
Eh ben.
Et oui, c'est un quiz où vous aurez appris que les escargots sont représentés combattants des chevaliers au Moyen-Âge. Vous pourrez ainsi briller dans les lignes.
Et que Kim Il-sung aime le vert sapin. Merci,
évitez de la sortir dans la lignée, celle-ci.
<rire> 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'un numéro d'Historiquement Vôtre qui rappelle de beaux souvenirs à Stéphane Bern quand il s'encanaillait chez Madame Claude. Je me souviens, c'était gênant, vous m'appeliez tout le temps pour qu'on y aille, vous me disiez...
Ça pourrait être sympatoche, non ?
Je vous disais oui, oui, bien sûr, Monsieur Bern, mais attendons quand même que je sois majeur. Bref, aujourd'hui que j'ai enfin l'âge légal, nous partons à la rencontre des heureuses entremetteuses de l'histoire.
Votre capacité à m'inventer une vie... Si possible, le plus sulfureux possible, m'étonnera toujours, Mathieu. Mais oui, cet après-midi, on vous raconte le destin de ces femmes qui avaient l'art de rapprocher les gens, qui fussent parfois très rapprochés. Après Marguerite Gourdon, je vous raconte, puisque vous en brûlez manifestement d'envie, oui, l'histoire de la célèbre Madame Claude. Et puis, si vers 17h30, je reçois des SMS d'insultes de Karine Le Marchand, je n'aurai pas à chercher très loin le coupable.
C'est que j'aurais fait son portrait à 99% vrai, car même si c'est bien sûr dans un genre très différent, plus champêtre, Karine Le Marchand est néanmoins une de nos plus célèbres entremetteuses contemporaines.
Ben, je vais vous donner son 06, comme ça vous lui expliquerez vous-même, non ? Ce sera, oui, sera plus commode, non ?
Oui, entre deux scènes de ménage, Stéphane, n'oublions pas non plus nos chroniqueurs, quand même.
Oui, vous avez raison. David Cassel-Lopez, qui remonte toujours aux origines. Et là, aux origines d'une chose qui nous concerne au quotidien, les talons aiguilles.
Tout à fait, on va voir d'où ça vient. Ça vient d'il y a très très longtemps.
Ça c'est précis.
Et ouh, là,
avec
le teasing,
c'est toujours de très très longtemps. Lui aussi, il nous raconte l'origine et l'origine d'un plat. Aujourd'hui, un plat au nom étonnant, Olivier.
Oui, je vois bien que vous êtes un petit peu surpris ou peut-être interrogatif face à ces oreilles d'âne. Mais qu'est-ce que sont donc que les oreilles d'âne ? Où les mange-t-on ? D'où viennent-elles ? Comment les prépare-t-on ? Un deuxième indice, tiens, après vous avoir dit tout à l'heure que c'était un plat salé, c'est un plat qui nous vient du côté des Alpes.
Alpes. Eh bien, nous avons hâte de découvrir ce que c'est pour de bon. En fin d'émission, on ira se dorer la pilule, non pas au sens propre, mais pour comprendre d'où vient l'expression, Stéphane.
Ça sera oui, oui. Alors, plutôt que de le faire, je vais vous dire d'où ça vient, évidemment.
C'est mieux.
De quelle pilule il s'agit ?
De quelle pilule on parle exactement ? Et tout de suite, vous l'avez compris, j'en brûle d'envie depuis longtemps. Stéphane Bern nous fait découvrir celle qui voulait rendre le vice joli. La célèbre Madame Claude.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Nous sommes à Paris en mars 1992. Dans son petit appartement du Marais, Fernande Grudet, alias Madame Claude, est en train d'évaluer les qualités physiques d'une jeune femme quand soudain on force sa porte. Les gendarmes viennent arrêter la proxénète prise en flagrant délit. D'abord très virulente à leur égard, Madame Claude obtient finalement une faveur de la chef de la brigade des mœurs, celle de prendre une douche et de se changer. Coiffée, maquillée, vêtue d'un pantalon et d'un blazer élégant, celle qu'on surnomme la mère maquerelle de la Ve République peut faire son entrée en détention. Il faut dire qu'elle a une réputation à tenir. Madame Claude, c'est une légende. Un personnage bourgeois, toujours élégant dans ses tailleurs Saint-Laurent, toujours habilement construit au fil d'une ascension impressionnante. Pour savoir qui elle est, il faut démêler le vrai du faux. En plus des fantasmes que son métier charrie, l'intéressée a pour le moins romancé sa vie. Fernande est née en 1923 à Angers. Elle se dit de bonne famille, fille d'un résistant fusillé pendant la guerre, tandis qu'elle était déportée à Ravensbrück où elle aurait sauvé Geneviève de Gaulle. Mais la réalité est plus banale. Son père est en réalité bistrotier, il vend des sandwichs à la gare pour arrondir les fins de mois et meurt d'un cancer alors qu'elle n'a pas encore 18 ans. Confiante à sa mère, une petite fille dont le père s'est envolé, Fernande s'installe à Paris. Sa situation financière est difficile, elle fréquente les milieux du banditisme. La jeune femme a sans doute recours à la prostitution, mais se sent plutôt l'âme d'une entrepreneuse. Deux choses marchent dans la vie, la bouffe et le sexe. Je n'étais pas douée pour la cuisine, résume l'ambitieuse avec son sens de la formule.
À la fin des années 50, Fernande monte une agence de prostitution de luxe qu'elle anime, summum de la modernité, par téléphone. On parle alors de call girls. Les rencontres se font dans une maison close du 16e arrondissement ou à domicile. Les tarifs élevés, on parle là de 10 000 francs la soirée, 15 000 francs la nuit, réservent les prestations à une clientèle fortunée. C'est si excitant d'entendre un milliardaire ou un chef d'État solliciter ce que vous seul pouvez lui donner avec une voix de petit garçon, à vous Madame Claude. La petite provinciale a enfin ce qu'elle désirait, le pouvoir et la considération. Visiblement l'argent aussi. Cela ne lui fait pas perdre la tête pour autant. Fernande Grudet est une femme de poigne qui gère son entreprise avec une discipline quasi militaire. Ses filles, pour reprendre son expression, jusqu'à 500 jeunes femmes en 20 ans, elle les choisit, les arrange, elle les éduque. Dentiste, chirurgie esthétique, relooking chez les grands couturiers, cours rapides de culture générale, Madame Claude se vante de rendre le vice joli, évoque des échanges de bons services et bannit les termes de proxénète ou prostitution. Pourtant, si la maison paye tout, si les filles sont nourries, logées, blanchies, elles doivent travailler dur pour rembourser. À chaque prestation, Madame Claude prélève une commission de 30%. En plus de leur métamorphose imposée, les candidates sont testées sur leurs compétences intimes par des amis. Parmi eux, le frère de Françoise Sagan qui prête sa plume à Madame Claude pour la rédaction de ses mémoires en 1975. On prête à cette mère Macrel une grande sévérité avec ses filles. L'une d'elles raconte, dans une déposition, s'être fait brutalement réprimander pour avoir refusé de se soumettre aux caprices gênants d'un client toxicomane. Les filles sont pourtant censées être libres. Tout ça n'empêche pas l'affaire de prospérer, bien au contraire. Les garçons, comme les surnomme la patronne, sont bien là. Ils rentrent dans le petit club par cooptation. Des têtes couronnées, des vedettes du cinéma, des capitaines d'industrie figurent, semble-t-il, parmi les clients de Madame Claude. Son numéro s'arrache dans tout Paris. Et bien au-delà, on fait appel à ses services pour conclure une affaire, pour chouchouter les diplomates tendus par une négociation. Depuis son hôtel particulier des beaux quartiers richement décoré, Madame Claude veille jalousement sur son petit empire. En un seul trimestre de l'année 1972, elle peut se féliciter d'avoir organisé 500 rencontres de jour, 255 nuits et 60 week-ends d'amour tarifés. Si une telle activité perdure, c'est qu'on la laisse perdurer. Madame Claude échange sa tranquillité contre quelques infos à la brigade mondaine et au service de renseignement. Ses filles font parler des hommes. Le Shah d'Iran, Muammar Kadhafi, Hussein de Jordanie ou Gianni Agnelli, le patron de l'empire automobile Fiat. Là aussi, les rumeurs courent. Avec ses secrets, Madame Claude peut-elle faire trembler la République? Parfois, un trop grand pouvoir peut aussi mettre en danger. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing arrive à l'Élysée. Il soupçonne Madame Claude d'avoir voulu le piéger en lui mettant une de ses protégées dans les bras. La proxénète est devenue trop influente. Peu à peu, ses protections sautent. 2 ans plus tard, le juge Bruguière démantèle le réseau. Madame Claude est condamnée à 11 millions de francs d'amende et 10 mois de prison avec sursis. Pour échapper au fisc, elle s'envole pour les États-Unis sous un nom d'emprunt. À Pacific Palisades, quartier huppé de Los Angeles, elle ouvre une pâtisserie, épouse d'un barman homosexuel pour obtenir sa carte verte et lance finalement un restaurant. L'histoire raconte que ses associés la balancent alors au service de l'immigration. En tout cas, Madame Claude rentre en France en 1985, persuadée d'avoir été oubliée. Elle est arrêtée dans sa petite maison du Lot, son lieu de villégiature, le 31 décembre de la même année et passe le réveillon en prison à Cahors, enveloppée dans un manteau de vison. Rapidement libérée, on la retrouve donc en 1992 à la tête d'un nouveau réseau de prostitution quand tout le monde la croyait retirée. Mais cette fois-ci, c'est la fin. Condamnée pour proxénétisme aggravé, Madame Claude passe 6 mois en prison à Fleury-Mérogis et accumule des dettes considérables. Elle meurt à l'hôpital de Nice, seule et ruinée, à l'âge de 92 ans, emportant avec elle, forcément, un bon nombre de secrets.
Europe 1, historiquement vôtre.
des secrets que nous allons tenter de percer. Pour continuer à parler de Madame Claude, nous sommes avec la comédienne Carole Rocher. Bonjour Carole.
Bonjour.
Bonjour Carole Rocher, vous êtes comédienne, réalisatrice, mais en ce moment vous êtes surtout, pour tous ceux qui nous écoutent, Madame Claude dans un film qui porte son nom, signé Sylvie Verhaed et diffusé sur Netflix. Mm-hmm. Comment est-ce que vous avez croisé le destin de Madame Claude et qu'est-ce qui vous a attiré chez ce personnage à la fois mythique et sulfureux?
J'ai été touchée par la personnalité de cette dame. Finalement, j'ai vu un documentaire un jour.
Oui.
Et ça m'a assez fascinée. Pas l'exercice, c'est-à-dire pas le fait que ce soit une maquerelle. Ce qui m'a fascinée, c'est son parcours. Et c'est sa force de vie, en fait. C'est-à-dire que, justement, quand vous racontiez son histoire, le jour où elle sort du tribunal, par exemple, et qu'elle doit 11 millions, qu'elle est ruinée, enfin bon. Et un journaliste lui demande comment elle va faire. Et elle répond, on verra ça demain. Et répondre ça quand on est ruiné. Enfin, j'ai vu quelqu'un qui ne sombrera jamais, qui s'accrochera toujours à quelque chose. Enfin voilà, j'ai vu une force de vie incroyable et j'ai été assez fascinée par le parcours de cette femme, le parcours psychologique finalement. C'est-à-dire que justement, c'est assez agréable d'entendre que oui, j'interprète Fernande Grudet. Mère-fille à 17 ans, je pense que c'est quelqu'un qui essuie énormément de complexes sociaux vis-à-vis des hommes. Je pense que c'était très difficile. Je sais qu'elle se trouvait très moche et elle a pris une revanche et ses démons sont restés jusqu'au bout avec elle et ça a guidé absolument, absolument tout. Donc c'est assez triste finalement parce qu'elle n'a jamais eu de résilience.
Alors, Madame Claude, évidemment, tout le monde connaît son nom. Elle véhicule beaucoup de fantasmes et elle-même a brouillé les pistes. Hein, Stéphane l'a raconté. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez appris sur elle en préparant le rôle?
J'ai pas vraiment été surprise parce que c'est vrai que j'ai. C'est surtout justement l'aspect psychologique. C'est pas une surprise, mais j'ai été assez fascinée par cette confirmation qu'elle s'était créée un personnage. Elle s'était créée une enseigne, Madame Claude. Elle s'est dit, je ne peux pas atteindre le pouvoir, les gens du pouvoir, si je m'appelle Fernande Grudet, avec un père qui tenait un bistrot à Angers. Donc,
ça s'est pas fait tout seul progressivement. Elle avait cette idée marketing presque de devenir une marque.
Je pense, voilà, c'est-à-dire qu'on... Je suis convaincue qu'elle n'était pas mythomane, mais qu'elle c'était une vraie bonne menteuse, ce qui n'est quand même pas la même chose. Et voilà, donc j'ai surtout été touchée finalement. Je n'ai pas été surprise, j'ai plutôt été touchée même par cette solitude. C'est une gangster en fait. Voilà, c'est un gangster au féminin.
En dehors des livres autour de Madame Claude et de ses écrits, est-ce que vous avez voulu rencontrer des gens qui l'ont connue, qui l'ont côtoyée, ou des call girls pour vous mettre dans sa peau?
Alors, j'ai pas rencontré de call girl. J'ai rencontré deux amis. Donc, j'ai rencontré un ami à elle qui est resté avec elle quasiment jusqu'à la fin. Alors, elle a eu un AVC, peut-être, je crois, un an et demi avant de mourir. Et elle ne voulait pas, absolument pas, qu'il vienne la voir à l'hôpital. Voilà, il est quand même venu la voir et elle l'a regardé et elle lui a dit, voilà, j'ai raté ma sortie. Il lui a dit, pourquoi tu me dis ça? Elle lui a dit, parce que je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Et donc, elle a vraiment fini seule volontairement. Et quand il me parlait d'elle, il me parlait d'une femme très drôle, très cynique, très intelligente. Une vraie chef d'entreprise, quelqu'un d'assez torturé, mais qui sait exactement ce qu'elle veut et qui ne lâchera rien, 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 rien. Et ensuite, j'ai rencontré Martine Monteil.
Oui.
Et Martine Monteil, comme elle m'a expliqué, elle m'a dit, il y a des grands voyous. Avant, il y avait les grands voyous, il y avait les grands flics, il y avait les grands voyous. Et Madame Claude faisait partie de ces grands voyous. C'est-à-dire que malgré son activité, elle inspirait quand même le respect.
Oui.
Elle inspirait le respect par sa forte personnalité. Et dans son créneau, elle avait un code d'honneur, quoi. Voilà.
Et puis, enfin, je sais pas pour la défendre, hein, ça va m'être reproché, mais on peut dire qu'elle les a formées, elle a éduqué toutes ces jeunes femmes, qui elle les a, oui, elle les aidait à développer certaines aptitudes, mais intellectuelles aussi, artistiques.
Elle les formait. C'est-à-dire que je pense que vraiment, moi, le sentiment que j'ai eu en faisant Madame Claude, c'est qu'elle formait ces jeunes filles pour pouvoir se promener dans l'élite de cette société, mais surtout, elle formait à l'image qu'elle aurait rêvé être, la femme qu'elle aurait rêvé être, grande, belle, intelligente, cultivée, de bonne famille. Finalement, toutes ces filles ont ressemblé à son fantasme. Est-ce qu'elle aurait rêvé, elle ?
C'était devenue une vraie femme de pouvoir avec sa clientèle VIP, comme on dit aujourd'hui. Mmh. Elle était un nœud stratégique, une source de renseignement aussi. On a compris que c'est ça qui la protégeait longtemps, en fait. Elle était devenue presque intouchable. Elle avait trop de secrets.
C'est la manière dont elle a fait les choses, c'est vraiment la preuve d'une grande intelligence.
Ce qui est incroyable dans le film, on évoque l'affaire Markovitch, évidemment. Il y a en filigrane quand même, il y a l'aspect politique. C'est vrai qu'on disait qu'elle pouvait faire tomber, en tout cas trembler, la Ve République.
Ben oui, bien sûr. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est tombée quand Giscard est passé au pouvoir. Après, je ne connais pas les détails, mais...
Vous y voyez un lien.
C'est un bon symbole, on va dire. Trois points de suspension. Oui.
c'était aussi une femme qui avait des failles, un manque d'amour, une solitude aussi, on en a parlé. C'est ces fêlures qui vous ont aussi intéressé dans l'idée de l'incarner.
Tout à fait, c'est-à-dire que c'est cette femme, cet être humain qui à un moment verrouille tout, est tellement dysfonctionnel, a tellement peur de l'amour, a tellement peur d'être aimée, parce que sûrement qu'elle a été très abîmée quelque part. Elle verrouille tout. Et donc, elle est maman, elle a une petite fille, et elle est passée totalement à côté, puisque d'aimer ou de recevoir de l'amour, elle se sentait en danger. Et c'est le propre, j'ai envie de vous dire, c'est pour moi, en tout cas, c'est le propre de la délinquance. C'est-à-dire que avoir peur d'être aimé et avoir peur d'aimer, c'est une base de délinquance.
Moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est qu'au fond, on est replongé dans une autre époque.
Oui.
Une époque qui... Et c'est aussi ça qui est intéressant, c'est le milieu du banditisme parisien, les cabarets, ça fume, ça boit, ça. C'est presque...
On vous sent nostalgique, Stéphane.
Non, j'ai pas connu cette époque, Mathieu. Non, je vous assure, Mathieu, j'ai pas connu cette époque. J'étais beaucoup trop jeune. Mais ça m'a passionné, vraiment. En tout cas, merci Carole Rocher, parce que vous avez donné un visage à Madame Claude, vous lui avez donné une âme, vous lui avez donné... Voilà, vous l'avez magnifiquement incarné.
Merci.
Pour celles et ceux qui veulent tout connaître de Madame Claude, je recommande le film réalisé par Sylvie Verhaed, dans lequel vous jouez aux côtés de Roche Dizem, Pierre de la Donchamp, Garance Marillé notamment, et c'est disponible évidemment sur Netflix. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Au revoir.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on retrace le destin des célèbres entremetteuses de l'histoire. Après Madame Claude, vous nous brossez, Mathieu, le portrait d'une entremetteuse plus proche de nous et qui exerce, elle, en toute légalité.
Oui Stéphane, et c'est en cela que Karine Le Marchand est plus futée que Madame Claude, c'est qu'elle a réussi à faire de son business un truc légal qu'on appelle « l'amour est dans le pré ». Programme de speed dating, ou plutôt de slow dating champêtre, qui régale les téléspectateurs d'M6 depuis 16 ans déjà. Et où des agriculteurs en mal d'amour cherchent à pécho des citadines en mal de verdure. Karine est là pour faire les présentations et, le cas échéant, la traduction, barrière de la langue oblige.
Tu rigoles de bilingue à presser, mais si ça presse.
Comment ? T'as un accent, hein ?
You're beautiful.
Oui, si l'amour est dans le pré, la syntaxe, elle est souvent dans les choux, mais c'est pas grave. L'essentiel pour les candidats, c'est de conjurer la solitude qui les ronge. Une solitude qui pousse parfois le célibataire à prendre un chat, un chien ou même, le cas échéant donc, un agriculteur. Car la solitude peut pousser à la dépression, regardez à quoi en est réduit David, draguer sa propre enceinte connectée.
Ok Google, fais-moi des bisous.
Et la révolution technologique des applis de rencontre ne change pas la donne, surtout depuis les confinements. Après avoir swipé à droite jusqu'à ce que fouler le pouce, qu'est-ce qui se passe de si fou, hein? Bah, on partage éventuellement un Pokéball sur un banc dans un parc à l'herbe un peu sèche, on se dit au revoir avant 19h, puis dans le meilleur des cas, on échange quelques SMS vaguement coquins, on se promet de faire un test nasopharyngé pour pouvoir se donner un peu de plaisir, mais le temps d'avoir le résultat, l'autre a déjà trouvé mieux en reswipant à droite sur Tinder.
L'ordure.
Ah, y a du vécu à ma gauche. En milieu rural, j'imagine que c'est encore pire. Comment ça se passe quand on est en 3G et que l'être humain le plus proche est à plus de 25 km, qu'il s'agit de Paulette, la tenancière du seul bar PMU épicerie relais colis cabinet de gynécologie de la région. Tu le commandes où ton Pokéball? Eh, on est alors condamné à se faire plaisir avec une treilleuse électrique ou un pommeau de vitesse de moissonneuse-batteuse? Eh bien non, il y a une solution.
Les mains, c'est génial.
Non David, mieux que les mains. Karine Lemarchand, l'entremetteuse cathodique la plus célèbre de France. L'ambassadrice de l'amour sans OGM qui est devenue, grâce à l'amour et dans le pré, une lueur d'espoir pour celles et ceux qui souhaitent s'amuser avec d'autres œufs que ceux de leur poule. Une émission présentée avant elle par Véronique Mounier et Alessandra Sublet et dont elle prend les rênes en 2009. A noter, on le sait peu, que l'émission avait été proposée à Stéphane Bern qui avait été obligé de décliner à cause d'une impossibilité technique pour lui évoluer sur sol boueux. Il avait alors dit à la production, désolé...
Je fais tout en Louis Vuitton.
Karine, elle a dit « Ok pour les bottes ». Mais d'où vient Karine Lemarchand? C'est à Nancy, le 16 août 1968, que Karine M. Faikourera voit le jour. Maman originaire de Lorraine, papa du Burundi et qui ne va pas tarder à y retourner puisqu'il quitte le foyer familial alors que Karine n'a qu'un an et demi. Ce n'est que bien plus tard, alors qu'elle est une jeune journaliste, qu'elle retrouve sa trace en Afrique au détour d'un reportage pour TV5 Monde au Burundi, découvrant qu'il est le directeur de la télévision nationale du pays. Retrouvaille de courte durée puisque son papa décède 2 ans plus tard, emporté par le sida.
Oh, c'est ballot!
C'est aussi ce que doit se dire, certainement. Karine, oh Stéphane. Non, heureusement, non, je trouve que vous avez une manière, très comme ça de très désinvolte d'aborder les tragédies de la vie.
Comme ça, tout à fait.
C'est vraiment étonnant de votre part. Heureusement, la jeune femme a de la ressource. Elle a trouvé sa vocation, le journalisme. Après s'être essayée au mannequinat, l'agence Elite l'avait repérée, mais elle réalise très vite que le beau métier de porte-manteau ne lui convient pas. Je ne sortais pas avec des vieux, je ne prenais pas de drogue. En plus, c'était l'époque où il fallait faire la gueule et moi, je rigolais tout le temps quand je défilais. Or, où se retrouvent tous ceux qui aiment rigoler et qui ne prennent pas de drogue? À la radio, bien sûr. C'est sur RMC que débute Karine, mais son physique avantageux attire l'œil des chaînes télé. Elle se retrouve rapidement sur France 3 Paris-Île-de-France. À quelques minutes de son premier direct, le directeur des programmes lui conseille de changer FISA son nom, sous prétexte que M. Faikourera, c'est trop compliqué à retenir. Ni une ni deux, Karine opte alors pour le nom de son petit ami de l'époque, Le Marchand. France 3, TV5 Monde, puis France 5, où elle remplace Maïté Nabiraben à la présentation des maternelles. 5 saisons à causer biberon, régurgitation et descente d'organes avec le sourire font d'elle une animatrice très populaire, un peu moins auprès de son compagnon de l'époque qu'elle dit avoir quitté en partie à cause de cette émission. Un soir au resto, le serveur lance au couple « Bonjour monsieur et madame Le Marchand ». Comme c'était pas son nom, il m'a pris la main et m'a dit « Écoute-moi bien, je ne serai jamais monsieur Le Marchand ». Ça a contribué à notre séparation. Mon militantisme féministe, mon goût pour l'égalité sont nés grâce à cette émission. Après 5 saisons, Karine quitte les maternelles pour rejoindre M6 et ce programme déjà célèbre donc l'amour est dans le prêt. Sa bonne humeur constante, son autodérision, son franc-parler sont désormais indissociables du programme qu'elle incarne depuis 12 saisons. Alors évidemment, il y a eu des moments gênants, hein, quand elle ne comprenait pas, on a entendu ce que disaient certains agriculteurs.
On dit toujours, je parle d'avenir, d'un accent, non?
Comment?
Dis-moi.
Combien de fois aussi elle s'est dit en pénétrant dans la ferme d'un candidat?
Ah oui, ça sent le roquefort.
Combien de fois elle a eu envie de crier en découvrant la déco de leur maison?
Pecno.
Mais elle n'en a rien fait, Stéphane. Car Karine le sait, elle doit continuer coûte que coûte d'incarner la bonne copine. Et la magie opère. En 14 ans, quelques 173 agriculteurs et agricultrices ont été mis à l'honneur dans l'émission. Parmi tous ces postulants, 74 couples sont toujours d'actualité et 14 d'entre eux se sont même mariés en présence de Karine. 54 bébés ont été produits. Paradoxalement, Karine est plutôt discrète sur sa vie privée. Elle fait beaucoup parler les autres, mais ne s'étale pas trop sur sa vie amoureuse à elle. Plusieurs hommes ont traversé sa vie, comme Lilian Thuram ou Joey Starr, avec plus ou moins de tourments. Mais quand elle est célibataire, elle définit ce moment de la vie comme une période importante pour faire le point sur sa liberté et savoir ce qu'on veut. Car oui, elle a beau encourager les rencontres amoureuses, Karine n'a rien contre le célibat. La preuve, ce très beau post publié sur son compte Instagram le jour de la Saint-Valentin. Je m'adresse à mes copines célibataires qui se lamentent un peu aujourd'hui. En 2021, le célibat n'est pas une malédiction. Regardez l'autre dinde de la Belle au bois dormant. Elle a dormi 100 ans et sans même se laver les dents, elle a embrassé direct un prince. Donc aujourd'hui, on ne se lave pas, on mange ce qu'on veut et on pète au lit. Elle nous maque et elle nous décomplexe. C'est pour ça qu'on aime tous Karine Le Marchand, qui foisonne toujours de projets, puisqu'en effet, Stéphane, à part rencontrer l'amour, de quoi rêvent les gens secrètement ?
S'affirmer en tant que queer.
Bien sûr, c'est pourquoi Karine va les y aider avec un nouveau programme pour M6 et qui s'intitule Transgenre, émission avec laquelle elle veut faire évoluer le regard sur les personnes transgenres. On ne peut qu'applaudir et la remercier encore une fois d'aider les gens à trouver l'âme sœur. Même si, bon, Stéphane et moi, on n'a plus besoin d'entremetteuse, on s'est déjà trouvé, grâce à Europe 1. Depuis, on file le parfait amour, on se suffit l'un à l'autre, à tel point que c'en est parfois gênant pour nos invités qui ont vraiment l'impression de tenir la chandelle.
Et la main dans la main.
C'est bon, vous n'avez plus besoin de moi.
Merci.
Je reviens quand vous voulez.
C'est bon, merci beaucoup. Tous les gars. Mais non, vous pouvez vous casser, on est bien avec Stéphane.
Très drôle votre chute. Merci beaucoup Mathieu, c'était 99% vrai. Bon, le 1% de faux...
On vous a jamais proposé L'amour est dans le pré?
Non, jamais, voilà.
Ça, est-ce qu'il y a une émission qu'on vous a proposée, que vous avez refusée, qui est devenue un carton après?
Non, non. Affaire conclue, oui, affaire conclue.
Vous avez refusé Affaire conclue?
Oui, absolument. Parce que je fais déjà l'histoire, le patrimoine.
Bah, vous
en
déjà
plus,
tout.
Je fais, si je fais les brocantes et les antiquités, ça va, je vais sentir le vieux. Alors que Sophie Davant, qui est pimpante et jeune, elle
bien sûr,
peut...
mais là. Vous êtes habilement rattrapé. Ça, c'est bien joué, Stéphane, parce que ça aurait pu être Goujat. Vous êtes rattrapé.
Non, non, mais j'aime beaucoup Sophie Davant et on l'embrasse très fort.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Une vilaine rumeur bruisse dans Paris selon laquelle Stéphane Bern porterait des talonnettes. Mais d'où viennent les talons? Voilà la question que pose aujourd'hui David Castello-Lopez.
C'est dur de savoir aujourd'hui si en tant qu'homme, on a le droit de dire qu'on trouve que les talons aiguilles, c'est super. Je suis pas sûr, parce que c'est quand même un inconfort que les femmes s'infligent. Alors, est-ce qu'elles se l'infligent à cause de l'oppression sourde du désir masculin, ou alors est-ce qu'elles se l'infligent parce qu'elles trouvent ça super pour elles? Je sais pas. Il reste que les talons, c'est un symbole du glamour féminin, et du coup, ça m'a donné envie de savoir d'où ça venait. Eh bien, ça vient des hommes. Ça vient des hommes. Voilà. Au départ, ce sont les hommes qui ont porté des talons, il y a plus de 1000 ans, pour monter à cheval. Et c'est assez facile de comprendre pourquoi. Si vous êtes sur un cheval et que vous voulez vous lever sur vos étriers, et ben les talons, ça vous permet d'être vachement plus stable pour, par exemple, tirer à l'arc dans le visage de vos ennemis. En Perse, en particulier, les cavaliers, ils portaient tous des talons. Et c'est devenu, petit à petit, une marque de chic. Et oui, parce que si vous vous promenez avec des chaussures pour faire du cheval, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez un cheval. Or, avoir un cheval, c'est classe. À l'époque, Mathieu, c'était l'équivalent d'avoir une Porsche. Vous voyez aujourd'hui, avoir un cheval.
Ah oui, à ce point-là.
Oui, sauf
ah
que oui. Le problème avec la Porsche, je parle sous votre contrôle, c'est que pour qu'on voit que vous en avez une, il faut que vous soyez dedans ou à côté.
Non,
ce qui est
on peut aussi négligemment poser les clés de la voiture sur la table, ce qui est très très chic.
C'est
je
vrai.
Vous le conseille.
Mais imaginez maintenant que pour conduire une Porsche, vous ayez besoin de chaussures spéciales Porsche. Vous voyez. Et bien après, quand vous marchez dans la rue, les gens se disent oh, cet homme possède un moyen de locomotion performant, c'est sexy, je vais lui offrir ma fille. Vous voyez. C'est exactement,
c'est
comme, ça
exactement comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, vous avez raison.
Tout ça pour dire que c'est normal que les chaussures à talons aient eu du succès chez les Perses. Et puis, fin 16e siècle, il y a un chat en Iran qui s'appelait Abbas Ier et qui a envoyé en Europe des émissaires qui portaient des talons. Et selon certains historiens, ce sont ces émissaires qui ont rendu les chaussures à talons cool dans les cours d'Europe. C'est devenu une marque de virilité. Il y a eu ensuite un petit tournant avec Louis XIV quand même, qui a porté des chaussures à talons rouges. Hein, on le voit dans le portrait de Hyacinthe Rigaud, des sortes de Louboutins avant la lettre. Mais encore une fois, c'était pas pour faire plus efféminé, c'était pour faire plus mec. Et puis au XVIIIe siècle, c'est tombé un petit peu en désuétude pour les hommes, notamment à cause d'un mouvement un peu rationaliste en philosophie. Genre, l'idée c'est un mec c'est rationnel, or les chaussures à talons c'est pas rationnel, donc quand on est un mec, on n'en met pas. Et à partir de là, il n'y a plus que les femmes qui en ont porté, puisque elles, bien sûr leur truc c'est pas la raison, mais les émotions, hein, donc elles ont le droit, c'est comme ça qu'on pensait à l'époque. Et dans la deuxième moitié du 19e siècle, les chaussures à talons, elles sont devenues un accessoire féminin sexy porno. À cause principalement de la photographie, on commence à faire des photos coquines de femmes. Et dans ces photos coquines, les femmes portent souvent des talons. Et puis enfin, dernière étape, c'est la Seconde Guerre mondiale. Les soldats pendant la guerre, ils ont passé des mois et des mois, des années parfois à reluquer des photos de pin-up qui portaient toutes des talons. et c'est vraiment devenu un accessoire érotique mainstream. Et dans les années qui suivent la guerre, ça a complètement explosé. Pardon. Il y a des innovations aussi qui ont permis de faire des talons toujours plus hauts et toujours plus fins. C'est de là que datent les talons aiguilles. Marilyn Monroe elle-même, qui en possédait des dizaines de paires, elle aurait dit « Les femmes doivent une fière chandelle à l'homme qui a inventé les chaussures à talons ». Voilà, c'était un autre temps quand même d'une femme publique.
On dirait plutôt l'inverse aujourd'hui.
Voilà, oui. Plutôt l'inverse aujourd'hui. Mais le truc, c'est que ça marche. En moyenne, les hommes trouvent les femmes en talons plus sexy. Et donc, si on veut se débarrasser des talons, des deux choses l'une, soit les femmes commencent à s'en battre la race que les hommes les trouvent plus sexy, soit les hommes changent leur désir et apprennent à bander autrement. Voyez, en tout cas, ce serait quand même pas une si mauvaise chose que ça si on arrêtait de porter des talons, parce que c'est pas bon pour la santé. Hein. Les talons, c'est mauvais pour la santé et ça augmente notamment les risques de troubles musculo-squelettiques et les douleurs de dos. Mais c'est peut-être en train de changer. C'est peut-être en train de changer les mentalités, puisqu'en 2016, en Angleterre, pour la première fois, les femmes ont acheté plus de baskets que de chaussures à talons. Donc peut-être, voilà, on est en train.
Mais c'est vrai que
ça cambre. Ça fait des super beaux mollets.
Voilà, exactement.
En tout cas, je retiendrai cette grande phrase du jour. Apprenons à bander autrement. Je trouve que c'est un beau slogan de campagne si jamais vous voulez vous lancer en politique. Bravo en tout cas, David.
Merci David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio et sur le site évidemment d'Europe1.fr.
Olivier Pouls est avec nous, il trépigne d'impatience, il a hâte de vous raconter sa recette du jour. Et Olivier, aujourd'hui, une recette qu'on ne connaît pas forcément, et je vais vous dire, qu'on n'a pas envie de connaître. Mais vous allez quand même nous expliquer de quoi il s'agit, les oreilles d'âne.
Oui, Mathieu, Stéphane, David, j'imagine que si je vous invitais à la maison, là, vous disant, venez donc manger des oreilles d'âne à la maison, peut-être que vous ne vous précipiteriez pas. Encore que, je vous rappelle, Mathieu, qu'avec Clémentine, on vous a fait découvrir les oreilles de cochon il y a quelques mois.
Et
ça.
C'est fort bon. Ah oui, c'est vrai que c'est pas mal.
Et vous aviez adoré ça. Hein. Alors, en ce qui concerne les oreilles d'âne, il n'y a ni âne, ni oreille d'ailleurs. Il n'y a pas plus d'âne que dans le fameux saucisson d'âne en Corse, qui, je vous rappelle, est une légende absolue et qui n'existe pas. Donc, on ne mange pas d'oreilles d'âne. Alors, pourquoi cette recette s'appelle-t-elle comme ça? Eh bien, tout simplement parce que pour la réaliser, on utilise une plante dont la forme évoque celle des oreilles d'un âne. Et cette plante, est-ce que vous la connaissez? C'est la tétragone.
Ah oui,
j'en ai entendu parler.
Moi aussi.
Alors, la tétragone, on la classe dans la catégorie des légumes un peu oubliés. Alors, c'est un légume qui ressemble, en termes de goût, à l'épinard, même s'il ne fait pas partie de la même famille. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tétragone, elle n'est pas originaire de nos contrées. Elle a été ramenée en 1770 par un certain James Bank, qui était scientifique anglais et qui avait embarqué avec le navigateur James Cook. Ils ont découvert cette plante sur les côtes australiennes et sur les côtes néo-zélandaises. Et c'est une plante qui leur a beaucoup servi d'ailleurs, parce qu'à l'époque, les marins qui s'embarquaient sur des longs voyages comme ça souffraient beaucoup de scorbut. Il manquait de vitamines et il manquait de légumes frais. Et donc, en embarquant ces tétragones, ils ont réussi à améliorer leur santé. Et ensuite, ils l'ont ramenée évidemment en Europe. Elle s'est répandue assez rapidement. En un siècle, il y en avait à peu près partout, de la France à l'Angleterre, en passant par l'Allemagne, d'autres pays. Même les États-Unis, d'ailleurs, on en a beaucoup planté dans les jardins avant qu'elle tombe un petit peu en désuétude. Mais dans certaines vallées alpines, on a utilisé cette plante pour réaliser une recette particulière qui s'appelle donc les oreilles d'âne, que vous pouvez réaliser avec de la tétragone si vous en trouvez, on peut encore en cultiver dans les jardins, ou évidemment avec des épinards, et ça remplace avantageusement. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en réalité, il y a deux versions. Il y a une version qui utilise des feuilles de lasagne, donc c'était des lasagnes gratinées avec de la béchamel, de la thôme, et donc une préparation à base d'épinards ou de tétragone. Ou alors, on peut remplacer les lasagnes par des crêpes. Et donc là, c'est très simple. Vous prenez des tétragones ou des épinards, vous les faites suer dans un petit peu de beurre, vous rajoutez une petite échalote éventuellement. Vous allez rajouter de la béchamel. Alors, vous savez comment on fait de la béchamel, hein, c'est farine, beurre, un roux, et ensuite on rajoute du lait. Un petit peu de fromage râpé, de la thôme ou du gruyère. Vous mélangez tout ça et vous intercalez ça entre différentes couches de crêpes, en terminant évidemment par une couche de béchamel. Vous mettez au four et vous faites gratiner.
Waouh! Ça donne
et emballé, c'est pesé.
Et emballé, c'est pesé. Voilà, c'est un gratin d'épinards avec des crêpes de la béchamel et ça s'appelle des oreilles d'âne, figurez-vous.
Incroyable.
Mais enfin, c'est quand même. Enfin, moi, la recette, je serais pas étonné de l'avoir. Pardon, j'arrive pas à trouver ma phrase. Ce que je veux dire, c'est que Olivier, c'est un plat assez rare, non? Enfin, moi, personnellement, j'avais jamais entendu parler de ce plat.
Alors, c'est vrai qu'il est né dans un coin particulier des Alpes, dans les vallées de Champsaur et de Valgaudemar. Bon, je pense que plus globalement dans les Alpes, on le fait encore aujourd'hui. Il y a quelques restaurants qui le proposent, mais moi, je propose qu'on crée, pourquoi pas, l'amicale des amateurs d'oreilles d'âne et qu'on aille porter la bonne parole un peu partout avec cette recette. Je vous inviterai donc manger chez moi des oreilles d'âne et vous saurez qu'en venant, vous n'aurez pas des oreilles d'un âne dans votre assiette. Oui.
C'est une bien belle idée, Olivier. On vous remercie. On trouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Rien à voir entre les oreilles d'âne et le bonnet d'âne.
Très bien. Je vois que Stéphane Bern est chaud bouillant pour sa chronique qui s'intitule Le mot de la fin. Chaque jour,
l'histoire d'une expression. Oui, je vais dorer la pilule. Alors, je vais vous expliquer d'où vient cette expression à sens multiple et donc forcément à origine diverse. Se dorer la pilule, c'est lézarder, c'est bronzer quand le temps le permet. Mais. Ça, c'est au premier degré, mais ce n'est pas tout. Si un camarade vous dit « Là, je crois, David, que tu te dors la pilule », ça signifie « Tu te fais des illusions ». Si un autre vous confie « Je vais lui dorer la pilule », c'est lui faire un beau paquet cadeau, vous voyez ce que je veux dire. Tout commence au XVIIe siècle. Les apothicaires avaient un double souci. Non seulement les pilules qu'ils fabriquaient pour guérir leurs patients de différentes maladies avaient un goût amer, mais en plus, elles se collaient entre elles à cause de l'effet combiné du temps et de la chaleur. Dès lors, ils ont pris le temps d'enrober ces médicaments d'une fine couche de sucre, voire d'une fine couche d'argent ou même d'or. Dès lors, plus de soucis, les médicaments avaient meilleur goût et en plus, ils présentaient mieux. C'est en quelque sorte l'invention de l'enrobage au sens propre comme vous figurez, car quand on enrobait d'or, on donnait encore plus de valeur aux médicaments qu'il n'en avait à l'origine. L'expression vient de là. Quand on fixe cette fine couche, on dore littéralement la pilule. Que ce soit dans le fait de bronzer sur un transat ou quand on enrobe un médicament, dans les deux cas, on dupe plus ou moins son monde. On est plus sexy bronzé, mais aujourd'hui, dorer la pilule, c'est flatter quelqu'un. C'est aussi lui faire des promesses mielleuses pour arriver à ses fins. Et donc, tout se résume avec cette citation d'Adolphe Thiers, « La science de gouverner est dans l'art de dorer les pilules ». Il a été homme d'État, avocat, journaliste. Bon, on peut effectivement se douter qu'il avait un don certain pour enrober les choses.
Pour moi, se dorer la pilule... Je pense que toute ma vie, j'ai mal employé cette expression.
Oui, c'est ça. Mais par exemple, de vous dorer la pilule, c'est quand par exemple j'ai une pilule amère à vous faire avaler ou une information désagréable, je vais vous l'enrober, je vais vous la dorer. Donc.
Eh bien, au moins, vous me l'annoncez, comme ça je serai prêt. Elles étaient quelque part les ancêtres de Mythique et de Tinder. Nous avons rendu hommage aujourd'hui aux heureuses entremetteuses de l'histoire, Stéphane. Laquelle vous a le plus fasciné ou choqué? Marguerite Gourdan, la surintendante des plaisirs de la cour et de la ville, Madame Claude, la mère Maquerel de la Ve République, ou Karine Lemarchand?
Écoutez, moi, on a du mal à me choquer, faut être honnête.
Oui,
les oies blanches, mais en fait, non. Non, j'étais fasciné par le destin de Marguerite Gourdan. J'ai trouvé passionnant cette plongée dans la prostitution du XVIIIe siècle.
C'était effectivement passionnant, vous pouvez le redécouvrir en podcast sur Europe1.fr. Demain, je tiens à le préciser, c'est vous, Stéphane, et vous seul qui avez trouvé le thème de l'émission.
Bah, comme tous les jours, Mathieu, moi, j'assume demain, ils ont la patate. On réunit le pharmacien et agronome Antoine Parmentier, dont le nom reste à jamais associé à la pomme de terre dont il a fait la promotion dans tout le royaume. D'ailleurs, ne dit-on pas un hachis Parmentier. Le forain Frédéric Rieger dit « Monsieur Fritz », ça tombe bien, c'est lui qui a popularisé les frites. Et aussi, ils ont la patate.
Ah, aussi, ils ont la patate, ils en ont même 100.
100 patates !
Je voudrais c'est le portrait des inconnus.
Ah oui, une émission aux petits oignons en perspective. Bon, à demain Mathieu, à demain chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.